Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken.
Aujourd'hui, je reçois ma petite sœur, Emma Burstein. Je termine cette édition d'hiver, je clôt 2021 avec un épisode très très personnel. Enregistré sur Zoom, donc je m'excuse si le son n'est pas au top. À un moment, on cherche le nom d'une chenille, il s'agit de la chenille processionnaire. Pour que vous compreniez mieux, je vous donne la définition, on dirait un film d'horreur. La chenille processionnaire est considérée comme un nuisible redoutable car elle possède un mode de défense particulièrement efficace, des milliers de poils urticants et dangereux pour les humains et les animaux. Ces poils orangés et microscopiques sont contenus dans des poches appelées miroirs. Ils sont situés sur chaque segment dorsal. Pendant une phase de danger ou de stress, la chenille ouvrira ses miroirs et libérera des milliers de poils urticants mesurant à peine quelques microns. Ces poils en suspension dans l'air ou portés par le vent n'auront aucun mal à atteindre les parties non couvertes des hommes et des animaux. Munis de crochets tels des harpons, ces poils s'accrochent très facilement au derme et libèrent, en se brisant, la substance urticante. Ces poils sont très volatiles car ils ont la taille d'une fine poussière. Oh, et donc la métaphore, le fait que ça s'appelle miroir, que ce soit dangereux, sécrété par le stress, incroyable. En tout cas, sur une note plus positive, à la fin de l'épisode avec Emma, on parle de nos résolutions pour 2022, ce qu'on voudrait améliorer. Je vous laisse écouter l'épisode, je vous souhaite de très belles fêtes. Dans la mesure du possible, en ce moment, vu l'ambiance, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous embrasse, merci d'écouter le podcast, bonne écoute.
Ça va, Boubou ?
Ça va et toi ?
Ouais, super, je t'ai écrit ton petit poème. Bou, babi, boum. Tu es ma petite sœur, mon lémurien. Je t'aime. Tu es sensible, intelligente, courageuse. Tu es travailleuse, ambitieuse, déterminée. Nous nous ressemblons, nous avons la même voix, le même rire. Parfois, devant toi, j'appelle papa ou maman et je me fais passer pour toi et ils nous confondent. Les plus grosses barres de rire de ma vie, je me les suis tapées avec toi. Des rires hystériques, fous et enfantins. Des rires sans bruit, la bouche ouverte, les yeux qui pleurent. Et nous avons nos différences. Tu aimes le salé, moi le sucré. Tu te damnerais pour des chips et du sauciflard. Moi, c'est le chocolat, les gâteaux. Tu es pudique, moi sans filtre. Tu es timide, moi extraverti. Tu es rationnel et moi, j'ai tendance à extrapoler. Mais nous sommes deux hypersensibles, deux émotives au caractère trempé. Nous avons vécu tant de moments de complicité en vacances, en voiture, quand on disait « j'achète, j'achète » en passant devant de belles maisons, les room service dans les hôtels à Mexico, arsenic et vieilles dentelles, les polypockets, les Barbies, moi qui t'envoyais insister auprès des parents pour qu'ils nous en achètent, l'enfance à la mélie, les chenilles, ta cheville, les voisins, Jacques Chirac, que d'aventures. Merci ma petite sœur adorée de venir faire un coucou dans mon podcast.
Oh, merci, bah, ça me fait plaisir de venir faire un coucou.
Je me suis dit que peut-être certaines private jokes, on allait peut-être les expliquer aux auditeurs.
Ouais, bien sûr.
Notamment, oui, parce que ça nous fait vraiment passer pour des grosses bourges les nuits d'hôtel à Mexico. Mais pour expliquer, papa avait produit un film avec un réalisateur tchécoslovaque.
Je ne sais pas si ça nous fait passer moins pour des bourges, je veux dire ça.
Sa femme était mexicaine et on était partis en vacances au Mexique les rejoindre. Et au retour, en plus, papa avait tellement fumé de cigares et bu de tequila là-bas qu'il a fait un infarctus quand il est revenu.
Ouais, alors je ne sais pas si c'est le lien direct avec le Mexique. Il n'était pas au top.
Il n'était pas au top, il était un peu en burn-out. Mais on avait visité on a fait quand même des voyages extraordinaires et on avait visité les pyramides mexicaines.
Moi, je me suis toujours demandé sur ce voyage si j'ai vraiment des souvenirs ou si c'est juste les photos qui font que j'ai des souvenirs, tu vois.
Je pense qu'il y a des souvenirs.
On était quand même enfant, j'avais 5 ans, tu vois.
Ah oui, 7 et peut-être t'avais 5 ans. Bah, peut-être les photos se sont mélangées aux souvenirs.
T'arrives à dire, toi, quel est ton premier souvenir?
Oh, waouh, bonne question. Écoute, je ne me souviens pas de premier souvenir, mais je me souviens d'un premier cauchemar.
Je t'écoute. Ah.
Bah, je crois que je te l'ai peut-être déjà raconté. C'est un souvenir d'enfance, d'école maternelle. Et on est dans le préau et tu es là. Je sais qu'il y a ma petite sœur quelque part proche. Peut-être à côté de moi. On est tous réunis dans le préau pour regarder un film. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un film de Noël. Je me demande si je t'ai pas sur mes genoux. Je me demande si je te porte pas sur mes genoux. Mais à côté de moi, il y a le mec que je kiffe. Et c'est juste ça, le genre.
Le premier mec que tu veux ken.
Je me demande si c'était pas un Thomas Pousse, dont j'étais folle, et dont je parle dans le spectacle. Et je me demande si c'est pas un premier genre fantasme de sensualité. Mais tu sais, quand tu sais pas encore c'est quoi, comment concrétiser l'attirance pour quelqu'un, mais je pense que c'est quand même l'envie de... Bah, de lui tenir la main ou de l'embrasser sur la bouche, le smaquer. Mais je pense
moi, je fais partie du coup de ce fantasme sexuel, quoi.
Bah, t'es sur mes genoux, mais t'es plutôt là pour empêcher, en fait.
Ok, on peut en parler.
Je me dis, merde, il y a quand même ma petite sœur sur mes genoux. Je suis dans le préau avec toute l'école devant un film.
Mais oui, je suis pas le seul frein, quand même.
Voilà, mais il y a un tout, quoi. Et je ne sais pas si c'est à partir d'un vrai souvenir ou si c'est un rêve. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent revenu, quoi.
Bon, je n'ai pas de souvenir qu'on ait maté tous un film tous ensemble à l'école primaire.
Ah ouais, mais en même temps, si tu avais un... Genre, si t'étais tout bébé, c'est normal que je ne t'en souvienne pas. Ou alors, je l'ai inventé. Toi, c'est quoi ton premier souvenir?
Bah justement, c'est ce que je te dis vis-à-vis du Mexique. C'est que je ne pourrais pas te dire si c'est un souvenir ou si c'est des photos de moi, enfant, qu'on m'a montré, qu'on m'a raconté. Et du coup, je me suis... tu vois,
ouais.
Difficile de dissocier entre une photo et un souvenir ou un souvenir de quelqu'un d'autre que tu t'es approprié.
Si, parce que moi, j'ai des souvenirs du Mexique qui ne sont pas sur les photos. Hein.
Oui, mais toi, tu avais 7 ans, mais ton premier souvenir, tu vois, ou des souvenirs très enfants, très jeunes.
Bah, c'est des souvenirs de l'Amélie.
On précise, voilà.
C'était une maison de vacances qu'on avait en Aquitaine.
Tu sais que parfois, je pense à y retourner.
Bah grave, moi aussi.
Et la racheter.
Mais grave, putain, ce serait énorme que tu fasses ça. Est-ce que ce serait pas un peu bad tripant dans un loop un peu Matrix, quoi.
De reproduire exactement la même chose. Ouais.
De revenir au même endroit. Moi, j'aimerais pas la racheter, j'aimerais y retourner un jour lors d'un voyage, un peu une espèce de pèlerinage des souvenirs, quoi. Retourner vers cette petite maison où on a partagé tellement de souvenirs. Et je crois que l'un de mes premiers souvenirs, c'était un Noël. Là-bas, il faisait très froid et je me souviens un peu du feu de cheminée, de papa et maman qui étaient hyper heureux, hyper amoureux de toi, qui étaient toutes...
Alors ça, c'est une photo.
C'est... Je crois que c'est un vieux souvenir de vraiment du début. Il faut savoir que maman est tombée enceinte de moi quand ça faisait 6 mois qu'ils étaient en couple. Ça faisait à peine 6 mois.
Et toi, tu dis maman et papa.
Ouais. Toi, tu dis notre père et notre mère.
Je dis ma mère et mon père, oui.
Ouais.
Mais c'est quoi, vrai que... En fait, pour moi, dire maman, c'est soit Downton Abbey, maman, soit très enfantin, quoi.
Oui, mais parce que moi, parfois, j'oublie qu'on est écouté, donc je suis dans la discussion avec toi et j'oublie, au moment où je fais les podcasts, parfois, j'oublie qu'ensuite, je vais les diffuser. Mmh. Et en plus, maman, c'est un peu particulier, c'est que... c'est qu'elle est tellement... je la mets tellement en scène sur Instagram... qu'à la fin, je suis là, bon, bah, c'est maman, quoi, les gens savent.
C'est la mère de tous, quoi.
Bah, tu sais que parfois, ça lui arrivait de se faire reconnaître dans la rue.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Par des gens qui disaient, ah, vous n'êtes pas la mère de Rosa. Ouais, ouais, tellement elle était sur mes stories. Mais en tout cas, oui, l'Amélie, pour revenir dans le poème, c'est là où il y avait eu la fameuse aventure des chenilles. Tu t'en souviens, toi, des chenilles ou pas?
Je me souviens, ouais, de ce truc absurde. Où on s'est dit, on a vu donc du coup une colonie de chenilles.
Ouais.
Et on s'est dit, on s'est attaché. Je pense que papa nous a incité à s'attacher aux chenilles. Et nous, on a mis le truc un peu au-dessus, quoi. On est allé plus loin dans le fantasme. Et on s'est dit que c'était nos potes. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas d'animal de compagnie. On devait se sentir un peu seul, quoi. Et du coup, on s'est vraiment attaché à ces chenilles. On s'est mis à dormir avec. Sauf qu'elles étaient vénéneuses.
C'est ça.
Et qu'on a fini à l'hosto.
Alors, c'est marrant que toi, tu mettes la responsabilité sur papa. Moi, je croyais que c'était plutôt moi qui avais déconné parce que...
Non, mais je ne mets pas la responsabilité. J'ai juste qu'il a, je pense qu'il a, il a attiré notre attention sur un phénomène de sciences naturelles qu'il trouve intéressant.
Parce que je me souviens...
Il dormait avec, ça va être génial.
Ça, je pense que c'est moi. Je me souviens du cerisier dans le jardin. Enfin, est-ce que c'était un cerisier, une espèce d'arbre qui produisait...
En fait, on avait un jardin très moche.
Très moche.
Que mon père avait le fantasme de planter plutôt que d'acheter un arbre qui est déjà poussé.
Ouais.
Tu plantes un chêne, c'est quand même, ça met 100 ans à ressembler à un truc. Donc, c'était que des petits mini-boulots, quoi, disons, sans feuilles.
Sans feuilles. On avait vraiment le voisin, le jardin le plus éclaté. Surtout qu'à côté, il y avait des gens qui avaient tous les deux, chaque côté. C'est-à-dire qu'ils avaient des jardins extraordinaires. Il y avait une famille un peu qui avait un chalet, certes de beauf, mais ils avaient quand même des grands sapins dans leur jardin, un truc un peu, pas force, un peu bourge, un peu. Et de l'autre côté, tu avais les espèces de bobos qui avaient un cheval et qui avaient des espèces d'arbres un peu sauvages, des sols pleureurs, des trucs.
J'adorais leur cheval.
Ouais, Ulysse. Donc de chaque côté, il y avait deux types de jardins bien différents. Mais nous, c'était vraiment genre une espèce de gazon mal...
Ouais, inclassable, ouais.
Du sable, quoi. Du sable, ça poussait pas. Mais on avait l'impression que c'était quand même magique et magnifique. Et en plus, tu sais que l'hiver, on avait acheté genre une pauvre guirlande qu'on faisait tenir sur genre notre espèce de
ça, seul c'est arbre. Vous parlez de la psychose de nos parents sur Noël.
Interdiction
de sapin, ça c'est quand même pour ne pas créer des traumatismes chez tes enfants.
Interdiction de sympa, interdiction de croyance même au Père Noël. Interdiction de simuler le fait qu'il y ait un Père Noël.
Ouais.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Très tôt, quoi. Donc, il n'y a pas le temps...
C'est vrai. Moi, j'ai l'impression d'y avoir un peu cru, j'avoue.
Ah ouais, mais toi, t'as été préservé quand même de certains trucs. Peut-être que toi, ils me laissaient
croire. Sur le Père Noël, j'ai été très préservée.
Sur le Père Noël et sur les photos de la Shoah, je crois qu'ils me les ont montrées à 7 ans. Ils ont vu que genre j'ai mal réagi, que genre en fait j'étais trop jeune. Ils se sont dit ah pour la deuxième, on les montrera plus tard.
Je pense que moi, mais ça c'est je pense un classique sur le deuxième enfant, c'est qu'ils ont zappé pas mal de trucs.
Ouais.
Du coup, les parents, ils sont plus cool avec le deuxième enfant, quoi. Ils sont moins en train d'essayer de construire un Pygmalion. Ils sont là, ah, bah, elle est là. Tiens, on l'a oublié, la station-service, merde.
Il y a un peu de ça. Et en tout cas, sur l'herbe avec les chenilles, je me souviens que c'était des magnifiques chenilles, mais sublimissimes. Il y a un nom, d'ailleurs. Bah ouais, elles étaient...
Ouais, des chenilles noires et blanches, genre...
Noires et jaunes.
Non,
les chenilles, mais il y a un mot pour ces chenilles, elles sont des couleurs, elles sont sublimes, d'ailleurs elles sont assez poilues, elles ont du tissu dessus, donc elles sont...
Ça me dégoûte tellement d'y penser, dis quand même.
Ouais, il me semble que j'avais pris une chaise en plastique que j'avais mise sous l'arbre, et qu'ensuite je t'avais assise dessus, et que je t'avais ornée de chenilles, plus ou moins.
Ah ouais, alors ça, aucun souvenir.
Enfin, en tout cas, que je te disais, tiens, que tu me servais de réceptacle à chenille.
Ah ouais?
Et qu'ensuite, on en avait... En fait,
quand même, les darons, ils n'ont pas capté qu'il se passait ça?
Non.
Alors, quoi.
Ils étaient occupés. Bah, tu sais, ils laissent leurs enfants jouer. Et ensuite, moi, je l'ai dit, genre... Et ensuite, le next step, c'était de dire, OK, tu sais quoi, genre, j'ai l'impression qu'il se passe un truc entre nous et les chenilles. Viens, on les amène à la maison. Et toi, mode, wow, OK, vas-y, je te suis. Et ensuite, ça a été ça le truc, ça a été de les prendre avec nous, de les amener dans nos lits, parce qu'on les trouvait douces et mignonnes et jolies, et de dormir avec.
Ouais.
Voilà. Et toi, tu t'es réveillée le lendemain, et il faut savoir que tu as un corps qui réagit plus que le mien, quoique moi aussi, mais en tout cas, tu t'es réveillée, et c'était surtout toi, tu avais le corps ravagé de boutons, quoi.
Ouais, je t'avoue, ça, je m'en souviens plus.
Ah, tu t'en souviens pas ?
Non.
Ah, parce que je me souviens quand même de moi, elle m'a fait quand même plus ou moins engueuler. Hein.
pas engueuler, mais en mode c'est quoi ce bordel, tu vois.
Et, c'est-à-dire que moi j'avais l'âge de pas m'en souvenir et, oui, donc on se dit quand même que tu avais de la valeur psychologique, surtout vu notre dynamique, c'était facilement, je pense, déterminable qui avait pris les décisions dans l'affaire.
Bah, la dynamique, c'était que je t'entraînais dans mes folles aventures et qu'à l'époque, tu avais ce caractère magnifique qui est que tu m'obéissais. Hélas, je vis toujours dans la nostalgie de ce moment où tu as décidé d'arrêter ça.
Bah ouais, je me faisais traquenarder. Attends, je me retrouvais avec des piqûres de chenilles, tu vois. Il a fallu qu'au moment de ma vie, je me dise, bon, fais tes propres décisions.
C'est ça, tu te faisais traquenarder. Ouais, bah je pense que j'étais ta sœur aînée. Donc forcément, c'est une dynamique assez classique. Et ensuite, mais c'est vrai que je te donnais pas mal d'ordre, notamment quand on faisait le marché, et même à Paris, mais surtout à la Mélie, c'est moi qui te disais d'aller chercher les parents pour insister pour qu'ils nous achètent des cadeaux. Tu te souviens ça ?
Ouais, mais alors ça, donc je pense qu'on peut en parler parce que ça décrit plus une de tes névroses. C'est que tu voulais absolument passer auprès des parents comme quelqu'un qui avait besoin de rien.
Ouais.
Et du coup, c'était hyper important pour toi de, quand les parents te demandaient si tu veux un jouet, de dire non, je n'en ai pas besoin. En fait, c'était un truc, genre tu voulais passer pour une protestante qui n'avait pas de possession. Je ne sais pas quelle était la dynamique derrière.
En fait, je connais la racine du mal de ce comportement.
Vas-y, je t'écoute.
En fait, on faisait souvent des courses dans des énormes supermarchés. Et je me souviens que quand j'étais petite, à l'époque, il y a eu une période où toutes les deux, on allait dans les rayons enfants et on se disait « Oh putain, ça me fait trop kiffer », on le prenait. Et on allait demander à maman de nous l'acheter. Ça, c'était une période où je le faisais avec toi. Où donc, toutes les deux, on se disait... et surtout, parfois, on ne voulait pas les mêmes choses. Toi, genre, tu étais là en mode, bah, ça sera ce Polly Pocket. Et moi, j'étais en mode, ça sera cette Barbie. Et donc, on prenait chacune nos trucs. On arrivait à la caisse et on disait à maman, achète-nous ça. Et un jour, maman a pété les plombs. Enfin, pété... Non, je pense que c'est genre juste une mère qui n'est pas du tout milliardaire et qui a dit, stop, arrêtez de me demander des trucs. Et genre, toi, tu as eu un relou et tu allais reposer le truc. Et moi, j'ai bloqué. J'étais en mode, j'ai pas supporté. J'ai vécu ça comme une humiliation. J'étais en mode, waouh, elle me parle vraiment méchamment. Et résultat, j'ai eu un truc d'orgueil de, ah ouais, ok. Ok. Et je me suis dit, à partir de là, dans ma tête, eh ben, plus jamais je demanderai quelque chose.
Ok, je comprends.
Et donc ça, c'est le point de départ, sauf que toi, t'as zappé très vite et le lendemain...
Ouais, mais je pense que t'aimais bien aussi la reconnaissance des parents, genre, oh, elle est si sage, elle a besoin de rien, elle n'est pas du tout pour y gâter. Je pense qu'il y avait quand même aussi un petit statut.
Je crois pas qu'ils avaient cramé notre fonctionnement.
Ah non, je crois pas, moi je me faisais engueuler d'être aussi capitaliste, quoi.
Après, il y avait une nature de... C'est-à-dire que j'ai exploité un talent que tu avais et une envie de ta part qui était en effet l'idée de consommer et d'avoir des jouets était inextinguible chez toi.
L'envie, je veux bien, le talent...
Et le talent... en fait, déjà, tu étais la plus petite. Alors, c'est vrai que moi, je me faisais passer derrière toi, mais maman, ça lui cassait les couilles qu'on veut toujours des jouets. Par contre, papa, il te disait oui. Hein. En fait, c'était et en fait, résultat, papa, ça fonctionnait avec lui, il t'achetait quand même les jouets. Donc, c'est vrai qu'à la fois, je te jetais au bûcher en mode prends le risque de leur demander, ça va être qui tout double.
Ouais, mais c'était maman qui, enfin, si les deux étaient ensemble, c'était maman qui décidait.
Ouais, mais il craquait quand même. Après, toute seule, j'ai le souvenir que toute seule, est-ce que tu te souviens de ce magasin de basket rue de Rivoli où tu avais pété un plomb contre papa ? Tu te souviens pas ?
Non.
Ben non, mais en fait, tu voulais une paire de baskets et on était entrés dans un magasin de baskets et je sais pas, je crois que tu avais craqué sur la paire de baskets la plus chère. Et pour une fois, papa avait résisté, il avait dit non, en fait. Il avait dit c'est mort, tu l'auras pas. Et là, tu t'étais roulé par terre, tu avais hurlé, tu avais fait un caprice de ouf. Et résultat, il y avait un mec, et moi, là, je regardais, j'étais un peu fascinée par toi, puisque moi, je me disais, putain, genre, waouh, elle prend vraiment. En fait, elle en a rien à foutre de leur déplaire, quoi. Moi, j'ai toujours été dans une hystérie de plaire aux parents. Alors que toi, tu étais en mode, genre, je veux ces baskets, et si je ne les ai pas, mais genre, je me casse, tu vois. En fait,
Ouais, alors la stratégie de je me casse, ça ne marchait pas vraiment. Parce non, que du tout. Coup, les parents, leur grand truc, c'était de partir.
Ouais.
Donc, bon, bah, au bout d'un moment, tu les suis, quoi.
Tu t'étais roulé par terre. Il y avait même un mec, un vieux monsieur qui avait dit « Mais enfin, achetez-lui ses baskets. Si c'est là, moi, si c'est ça, moi, je les lui achète. » Et je crois que ça s'était fini par une fessée que tu avais reçue. Non, le truc de basket. Et donc, c'est vrai que c'était... Mais après, il y avait donc des moments comme ça où tu étais en fait une enfant. En fait, je pense que tu étais juste une enfant, plutôt normale. En vrai, là, on décrit le comportement d'un enfant. Hein.
Je pense.
Tu vois, il n'y a rien de bizarre. Alors,
je sais pas, basket, c'est un peu triste d'avoir fait un caprice pour ça, mais je pense pour des jouets, il y a beaucoup d'enfants qui font ce genre de...
Oui, ce qui est plus bizarre, c'est genre l'enfant qui se tient en arrière et qui a calculé qu'en fait, à partir d'une blessure d'orgueil, elle choisirait de se mettre en arrière pour pouvoir programmer. Enfin, tu vois, c'est ça qui est plus chelou, quoi.
Peut-être. C'est pas à moi de le dire. D'ailleurs, je me pose la question, parce qu'on a quand même, en effet, comme tu disais dans l'introduction, des voix hyper similaires.
Ouais, est-ce que,
tu vois, les gens vont juste se dire, elle n'a pas de sœur, elle s'est enregistrée toute seule. Elle a atteint un stade de folie aiguë.
Ou alors, ils vont croire que toi, c'est moi, et résultat, ils vont se dire à la fois, putain, dis donc, Emma, genre, c'est elle qui s'est mise en retrait et qui demandait à Rosa, tu sais, vu que nos voix se ressemblent, ils n'arriveront plus à dissocier qui a dit quoi.
Que t'es genre une actrice qui a un autre nom, et que t'es mon alter ego, c'est ça que je t'ai mis en...
Non, ils vont croire que ce que tu dis, c'est moi qui l'ai dit, vu que t'as ma voix.
Ah ouais, de savoir qui parle, c'est ça.
Ouais. Ok. Au départ, j'avais voulu faire un chapitre dans mon livre sur quand tu t'étais blessé le pied. Je pense que j'en ferai un quand même.
Ouais, parce
que
c'est la chose la plus intéressante de Terre.
Bah, si, c'était les sentiments étaient intéressants parce que moi, ça avait vraiment été l'un des pires étés de ma vie où toute l'attention était sur toi, quoi.
J'étais sur le porte-bagages de notre père. Et ce qui était un peu imprudent, c'est qu'il avait donc du coup pas de porte-bagages enfant. Et que j'avais 5 ans. Et je me balançais les pieds à droite à gauche. Et mon pied s'est pris dans le rayon du vélo. Et du coup, mon pied a été ouvert. Et ils ont dû me faire des points de suture. Et ils m'ont emmené dans un vieux médecin de campagne tout pourri. Donc, j'ai encore une cicatrice ouverte. Enfin, un truc trop moche quoi, sur le pied.
Premier médecin qu'ils ont trouvé sur la route, ouais.
Oui, je pense que c'était pas par volonté de me rater le pied, mais et du coup ils étaient un peu aux petits soins. Je pense que notre père était hyper culpabilisé d'avoir fait ça et il avait pas mal d'attention. Alors c'est vrai que d'habitude ils étaient un peu plus à me laisser dans un coin quoi. Donc du coup c'était difficile pour toi, c'est ça, toute cette attention que j'avais eue à ce moment-là.
Oui, moi, pour moi, c'est un épisode plutôt à raconter, tu vois, que je raconterais avec de façon tragicomique. Mais après, moi, j'ai pas le souvenir de, ils nous laissaient jouer de temps en temps dans le coin, mais ensuite, j'ai le souvenir de parents très fusionnels où on faisait tout avec eux, on était beaucoup avec eux, on était. Si on allait. À toi, t'as pas ce souvenir-là ?
Non.
Ah, c'est étonnant. Mm-mm. J'ai souvenir qu'on était très... que les sorties, on les faisait avec eux, qu'ils prenaient peu de temps pour eux. J'ai souvenir que les parents, ils ont rarement pris un week-end pour eux, qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, on partait en vacances à quatre, qu'il y avait une cellule à quatre, qu'il n'y avait pas genre le couple et leurs enfants, qu'il y avait vraiment la famille et que c'était une espèce d'immense mélange.
Déjà, je pense que papa, il était pas mal à l'étranger sur ses films et tout. Et maman, elle écrivait... Non, moi, j'ai beaucoup joué seule.
Ah ouais. En tout cas, c'est vrai que moi, je me souviens quand tu t'étais fait cette blessure au pied, et bah, y avait une infirmière qui venait, assez grave quoi. Et résultat, tout l'été, l'attention avait été sur toi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance comme ça où chaque maladie, chaque événement, chaque truc à la fois te rend, crée un sentiment où tu es encore plus précieux pour tes parents. C'est-à-dire que, et donc c'est ça qui est un petit peu trouble. C'est, tu vois, quand j'avais eu l'histoire des... Notre père nous avait ramené des poupées de Russie avec des petites perles dans les cheveux. Mmh. Et peut-être que tu t'en souviens pas parce que c'était vraiment petite. Mais j'avais dormi avec et j'avais tiré les cheveux et les perles étaient rentrées dans mes oreilles. Tu t'en souviens pas ?
Je me souviens qu'on me l'a raconté, mais non, je ne me souvenais plus.
Et donc, résultat, ils m'ont amené à l'hôpital et c'était très compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas m'opérer. Il fallait qu'ils aillent retirer la petite perle. Et donc, je hurlais. Et à la fois, ce moment, ce premier truc grave, entre guillemets, d'enfant, où tu as de la souffrance physique, tu cries, et où les parents ont peur, t'es mélangé par le fait d'avoir mal, donc la souffrance physique, et le plaisir intense de voir tes parents avoir peur pour toi, qui est quand même une gratification énorme.
Ouais, mais je pense que ça rejoint ce que je disais, c'est que je pense qu'ils étaient quand même très préoccupés par des histoires de fric, de boulot et tout, et qu'il y avait une petite demande d'attention, quoi. D'ailleurs, c'est pas étonnant que tu sois comédienne. Enfin, tu vois, je pense qu'ils donnaient pas beaucoup d'attention. Et c'est pour ça que c'est aussi marqué par ces moments-là où, du coup, le danger a fait qu'ils étaient obligés de donner toute leur attention.
Je suis pas d'accord. Enfin, je pense qu'ils, pour moi, et je trouve qu'ils ont donné énormément d'attention. Je pense qu'ils étaient stressés, angoissés, mais je pense qu'ils étaient ultra attentionnés. Alors peut-être bizarrement, follement avec leur caractère, mais pas. J'ai pas l'impression d'avoir été. Mais après, c'est certainement ça, c'est une sensation plus de la deuxième, quoi. C'est.
Oui, sans doute.
Ouais, mais. Mais après, il y a tellement de moments de bonheur et de plaisir, toutes les deux, nos jeux, nos Barbies. Alors après, putain, qu'est-ce que je suis ? Nos jeux, nos Barbies, les Polly Pocket, qu'est-ce qu'on en a joué ensemble ? Beaucoup de concours, beaucoup de défilés, beaucoup de hiérarchie hein, parmi les Barbies, un monde très capitaliste, très hiérarchisé. Hein.
Ah ouais ? Je ne me souviens pas de ça. Il y avait des boss, quoi, et les...
La princesse, la reine, l'impératrice...
C'est vrai, ça y est.
Et ensuite, on les faisait tomber plus ou moins. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle Barbie, elle venait rendre obsolète l'ancienne, quoi. Donc, c'était très dur qu'une Barbie reste la préférée parce qu'on avait des nouvelles. Il y avait un turnover, ce qui était assez cruel finalement, parce que chaque Barbie était quand même interchangeable. Et puis, on les mettait en ligne. Et il y avait des concours de danse, de beauté, des défilés. Tu te souviens pas ?
Si. Et je me souviens que c'était quand même très matriarcal parce qu'il y avait un Ken.
Complètement.
Les femmes. Ça vous intéressait pas mal.
C'est vrai qu'il y avait un Ken, ou matriarcal ou totalement concubinage, quoi. C'est-à-dire que il avait je sais pas combien de Barbie à sa disposition. Il servait à rien. Raison,
c'était le boss de l'histoire, tu vois.
Pas du tout le boss. Non, c'était pas le boss. Non, il était là, il ne servait pas à grand-chose, ce canin.
Non, parfois, tu les faisais se reproduire, quand même.
Voilà, parfois. Et d'ailleurs, tu n'aimais pas du tout ça.
Moi, elles étaient toutes vierges, mes Barbies, dans ma vie.
Ah ouais.
Ken blanc, c'est dessus.
Hey, tu ne voulais pas qu'ils aient des rapports sexuels. Enfin, ouais. Ou alors, pas ouvertement. Moi, je les prenais, je leur faisais faire « en !» Et ça te dégoûtait, quoi.
Je vois que tu salissais la pureté de mes Barbies.
Et il ne servait pas à grand-chose. Et par contre, il y avait quand même sacrément de... Et puis, il y avait les départs en vacances. Il y avait quand même une espèce d'ambiance de pièce de Tchekhov, tu sais, où ils doivent partir. Alors, à la limite, on prend le camping-car, etc. Et on prépare tout et on part. Puis, il y avait le château avec tous les putains d'accessoires. Ça, c'est vrai qu'on avait des grandes chambres. On avait tous les jeux. Et puis toi, tu l'es récupéré. Ça, c'est des vrais moments de joie, de bonheur et de plaisir. Ensuite, évidemment, si on doit parler d'une chose qui a peut-être pourri notre adolescence, ça a été le fait de s'emprunter nos vêtements. Ça nous a fait péter des câbles, quoi.
Ouais. Mais ça, je pense que pour le coup, on a une dynamique inversée à grande sœur, petite sœur.
Ouais.
C'est que c'est souvent les petites sœurs qui piquent les vêtements des grandes sœurs. Et nous, c'était l'inverse, quoi. Tu me piquais tout le temps mes vêtements.
T'avais des vêtements super stylés. T'as tout de suite eu plus de goût que moi. Tu t'habillais bien. En fait, tu savais ce que tu voulais porter, quoi. Moi, je pense que maman, elle m'a juste amenée dans un truc. Elle m'a dit, ça sera cette chemisette et ce pantalon en velours. Et de toute façon, je suis en mode, ah ouais, ok. Et toi, t'as fait, non, par contre, on va styliser tout ça, quoi. Donc, très vite, t'as eu du goût. Très vite, tu as eu des potes aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça va avec ce truc. Peut-être que j'étais moins avec les parents et du coup, beaucoup plus avec les autres.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Donc, j'étais vachement avec des copains ou chez des copains.
Tu as toujours été plus normale que moi. Tout ce que tu as fait, que ce soit l'enfance ou l'adolescence, tu l'as... t'as fait ta crise d'ado comme une ado. Tu t'es rebellée comme une ado. C'est vrai que c'était. T'as eu des potes, t'as eu des bandes, t'étais avec les populaires. Ouais, t'as fait des trucs. Et comme quand t'étais enfant, quoi. C'est vrai que c'était. Et puis ensuite, on est toutes les deux devenues adultes et ça se voit moins, mais c'est vrai que c'était un parcours plus.
Ouais, toi, t'étais adulte plus tôt dans ta tête, quoi. T'aurais pu très bien traîner avec maman et ses potes.
Grave.
T'aurais pu parler. Tu préférais ça que de jouer aux Sims avec moi, quoi.
Si, parce que quand même, j'aimais bien jouer aux Sims. Mais tu vois, ça, les Sims, c'est un truc que pour le coup, t'as fait toute seule. Moi, j'ai jamais capté comment ça fonctionnait, les Sims. Donc, petit complexe d'infériorité de ma part.
Ah ouais ?
Ouais. Ouais. Non, les Sims, non. Ensemble, on faisait Marine Malice. On avait un CD-ROM, on avait un ordinateur et des CD donc, sur lequel il y avait le jeu Marine Malice et surtout, il y avait aussi le jeu des 101 Dalmatiens où il fallait assortir un maître à son chien. Ça, qu'est-ce qu'on...
Tu sais que j'y pense encore, ça, souvent, parce que c'est la vérité, en fait. Souvent, tu vois des gens qui ressemblent à leur chien.
Ah, mais
là, il y avait tout un truc où tu voyais les gens, tu voyais leur chien et il fallait faire les paires.
Ouais.
C'est vrai que c'est très véridique, quoi.
Puis, il y avait plein de musique. Il y avait aussi le jeu du Roi Lion, tu sais ? Le CD-ROM du Roi Lion.
Ça, je m'en souviens plus très bien.
Si, avec des petits jeux aussi, avec le petit singe, etc. Et les cannes, il fallait cliquer sur un endroit. Ça, on a beaucoup joué. On a beaucoup... Tous les dimanches, on regardait un dessin animé sur le canapé avec papa, pendant que maman faisait la cuisine. Papa pleurait. Tu te souviens quand même, il pleurait au dessin animé.
C'est toujours le cas. Mais moi, j'avoue que voilà, je vais révéler quelque chose. Je déteste aller au cinéma avec lui et avec toi. Parce que vous avez l'impression d'être seul dans la salle et d'être genre à une projection des critiques de Télérama. Et du coup, j'ai le droit à cette scène. Je ne sais pas si elle était nécessaire. Alors, le truc qui te sort complètement de l'action. Et toi, tu aimes bien aussi ? Ou je ne sais pas si c'est un bon film. Tu vois, au bout de 10 minutes, peut-être que tu as envie de te faire une opinion, machin. Et papa, il exulte en même temps que ça de sentiments pendant tout le visionnage du film, quoi.
Ah, mais il faut lui dire de fermer sa gueule.
Ah, mais rien n'y fait. Enfin, s'il rit, il te frappe la jambe, il rire. Et s'il pleure, il y en a jusqu'au sol, quoi. Il vit très intensément les films.
Il a énormément besoin de partager ce qu'il ressent, que ce soit joie, peur, colère. Il est extrêmement... En fait, de la famille des quatre, tu es la personne la plus rationnelle et la moins émotive, tu l'es, mais tu es la plus contenue par rapport à papa, maman et moi qui sommes des éponges. Enfin, pas des éponges, mais qui disons tout, quoi. Toi, tu es un peu en mode « give me my space ». Papa, c'est vrai qu'on va au ciné. Alors, il est extrêmement joyeux au début, quand on allait à Cannes voir un film ensemble. Il est extrêmement joyeux, donc il sourit, il te tape, etc. Il rit. Ou alors, il se fait chier, alors il te regarde. Moi, il ne parlait pas, mais il me regarde en mode... C'est genre vraiment, genre il montre qu'il s'emmerde. Et rapidement après, il ne fait plus aucun bruit parce qu'il s'endort.
C'est pas mal.
Il s'endort. Mais ou alors, il pleure, et sinon, s'il est ému, il pleure et il te le montre. Il pleure et il te regarde les yeux rouges et il montre qu'il est ému et tout.
Moi, je pleure encore beaucoup. Hein.
Bien sûr, on chiale. Ah ouais. Ça, c'est marrant, mais on est une famille quand même. Non, mais t'es aussi, tu peux pas échapper à ta famille. Donc, tu es forcément hypersensible et émotive. On est une famille qui est complètement là-dedans, quoi.
Oui, on croise avec nos sentiments.
Ouais, ça, c'est sûr. Il y a peu de... Quand tu rencontres d'autres familles, tu t'en rends compte. Moi, je m'en rends compte, hein, quand je vais dans d'autres familles, que tout est beaucoup plus... tu vois, que c'est moins... Je sais pas si c'est les origines... Polak du côté de papa ou le côté slave, mais il y a un côté très tout est dit, quoi. Enfin, il y a un côté très explosif, quoi. Enfin, tout n'est pas dit, mais en tout cas, parfois il y a des secrets, parfois il y a des mensonges, mais en tout cas,
on camoufle mal ce qu'on ressent, en tout cas.
Ça, c'est sûr qu'on a du mal à camoufler ce qu'on ressent. Exactement. Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui, adulte, à réussir à camoufler?
Bon, j'ai pas trop à le faire, donc ça va. Mais...
Ah, c'est trop bien, t'es pas que comédienne, t'arrives à envoyer chier ou à être froide ou...
Ouais, bien sûr.
Oh, la chance. Putain, je me suis tellement trompée de voie professionnelle.
Ouais, bon, après, je peux pas non plus. Enfin, je pense qu'il y a zéro job où tu peux envoyer chier ton boss en lui disant non, ça me fait vraiment chier ça, tu vois. Donc, forcément, je dois me contraindre de ce que je ressens réellement dans certaines situations, mais sinon, oui, je
Ouais.
laisse plutôt libre cours à ce que je ressens.
Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu te souviens quand on allait au Rex voir la sortie des films?
Bien sûr, ouais. J'ai
Ouais.
toujours une petite émotion quand je passe devant l'ex.
Ouais, c'est clair.
J'ai repensé récemment au musée qui était accolé au Rex, qui était le
Ah
musée du cinéma, et
ouais.
il te montrait tous les bruitages, comment il faisait tous les bruits de
Ouais.
cinéma. Et l'autre jour, j'ai essayé de retrouver comment il faisait les chevaux. C'est le.
Ah ouais.
Et ouais.
Ben c'est le musée du c'est les étoiles du Rex.
Exactement.
Bah, tu sais, j'avais fait mon anniversaire du CM2 aux Étoiles du Rex.
J'avoue que avoir oublié cet événement.
Bah ouais, parce que j'avais demandé à ce que tu sois pas là, je crois. Et j'avais demandé, c'était genre le premier truc un peu ado d'émancipation, le premier moment un peu d'émancipation que j'ai eu. J'avais demandé aux parents de sortir et j'avais voulu genre qu'il y ait un moment d'intimité entre pré-ados. Donc non, je pense que maman, en fait, nous avait... Non, est-ce que tu étais là quand même? Ou tu étais peut-être allée chez une copine à toi? Et ensuite, on était allé aux Étoiles du Rex. Ensuite, on était rentré à la maison. Ensuite, j'avais demandé aux parents de partir. Et ensuite, c'était la boum entre nous, sauf qu'on avait quand même genre 10-11 ans. Donc, on était petits, donc pas vraiment.
Assez inhibé, ouais.
Bah, non, totalement désinhibés. Les mecs,
Ah
c'était.
bon?
On... Ouais, les mecs s'étaient mis en slip ou en maillot de bain.
Oh, ah
J'avais mis de la musique.
quoi?
Ouais. Ils
Cette
étaient des.
ambiance trop chelou.
Il y avait Lucie, Laetitia. Gaspard, Thomas Legal, Pierre Ducouré et moi, je voulais absolument un chiffre pair qui est trois mecs et trois meufs. Et résultat, et les parents étaient rentrés, genre il y avait genre les mecs qui étaient genre en slip, maillot de bain, en train de sauter sur les canapés et nous, genre les meufs en train d'applaudir. Et genre maman s'était marrée et papa avait fait un coup d'entendu. Genre papa, genre ça n'avait pas fait rire, il avait fait qu'est-ce qui se passe? Et genre on avait tous fait
Ouais,
ah! Et on était.
j'aurais été un petit peu aussi interloquée, je pense, par la scène.
Ouais, papa, parfois, il avait des pulsions de violence. À chaque anniversaire, hein, à chacun de mes anniversaires, à un moment, il me gueulait dessus. Je me souviens d'un de mes anniversaires. Ah ouais, mais pas un de mes anniversaires, je ne sais plus, genre, ouais, 7 ou 8 ans, tu vois. Un truc, genre, j'avais juste fait un brunch avec où j'avais demandé une pyramide de boules de glace. Ça, quand il y avait un truc qui me plaisait, genre, bah, fallait qu'il y ait à chaque fois ça. Tu te souviens de la pyramide de boules de glace de Picard? C'était genre le dessert des anniversaires que je réclamais. Et genre, j'étais intraitable au mode Carrie Bradshaw, quoi. Il faut la pyramide de boules de glace. Et je demandais à maman de porter une robe pour mon anniversaire, vu qu'elle n'en portait jamais.
Ça, je me souviens, mais moi aussi, j'ai demandé.
Donc, 2 fois par an, pour nos anniversaires, maman mettait une robe. Et donc, elle avait mis. Ah, si, t'étais là, puisqu'il y a les photos, je me souviens, t'es là. Et ils avaient mis. Donc, il y avait la pyramide de boules de glace qui arrivait. Et maman avait mis des petits trucs, tu sais, avec des qui font des feux d'artifice, genre des bougies dessus. Et j'en avais pris une, genre comment, et je l'avais sans faire exprès. En fait, j'avais pris une dans mes mains parce que je trouvais ça beau, mais en même temps, ça m'avait brûlé, donc je l'avais fait tomber par terre. Et ça avait fait une tache au sol. Tu te souviens pas? Le bois avait brûlé. Il y avait une petite.
Merde. Ah ouais, non, je me souviens plus.
Et papa avait hurlé. Il avait fait. Mais. Mais hurler, mais comme un dinosaure. Enfin, genre, je sais pas comment dire. Et genre, je me souviens que genre les petites filles autour étaient en mode. Genre, elles avaient frosé, genre, ça avait foutu une ambiance de merde. Parce que genre personne n'avait réussi à genre repartir sur une conversation normale, quoi. Genre vraiment,
Ça peut casser l'ambiance, ouais.
ça avait grave cassé l'ambiance. Et moi j'avais chialé juste en mode, gars, pourquoi tu saccages mon manif, quoi? J'ai fait une bêtise, mais viens, on en parle après, quoi. Et souvent, et même pour ma bat mitzvah, à un moment, il m'avait crié dessus, et il y a un truc d'énervement, de truc, et j'étais en mode, gars, tu choisis genre le jour dans l'année qui est le plus important pour péter un plomb, quoi.
Était peut-être jaloux de l'attention.
Ouh. Peut-être. Ah là là, ma petite boubou. Je t'ai préparé le petit questionnaire de Proust.
Je t'écoute.
Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme?
De la gentillesse, je dirais.
La qualité que tu préfères chez une femme?
Bah, c'est difficile, une qualité, parce que si la personne n'avait qu'une qualité, j'aurais peut-être pas envie de traîner avec elle, tu vois. Non, mais il m'en faut plusieurs, tu vois. mais comme un homme, enfin, juste gentil, c'est vrai que c'est super, mais donc j'essaye de... L'intelligence, c'est important, mais la gentillesse, c'est aussi très important, la bienveillance, je ne sais pas, l'humour aussi, mais ça, s'il y a de l'intelligence et de la bienveillance, en général, il y a un petit peu d'humour, je ne sais pas, ouais, humour, allez.
Le principal trait de ton caractère ?
Alors là, enfin, c'est moi qui parle de moi, donc j'ai sans doute tort, mais je dirais l'intelligence. Le principal trait de mon caractère, je sais pas, c'est compliqué comme question. Tu dirais quoi, toi ? C'est quoi le principal trait de mon caractère ?
Je dirais déterminé.
Ok.
Ça ne veut pas dire que tu n'es pas évidemment intelligente, sensible, drôle, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment dans ta vingtaine ou quand tu as commencé à prendre des décisions dans ta vie et à t'y tenir, tu as été une espèce de capitaine de bateau assez contre vent et marée, quoi. J'ai l'impression qu'ensuite, quand tu choisis quelque chose pour toi, tu arrives à contrôler ta vie, quoi. Tu arrives à faire des choix pour toi, tu arrives à choisir quand tout d'un coup une personne tu vois t'as eu des choix dans ta vie, je veux pas rentrer dans des détails trop personnels, trop intimes, mais des bonnes décisions quoi, à chaque fois que t'as prises pour toi et qui t'ont mené d'un point à un autre, et c'est une espèce de force de caractère incroyable quoi, et une intuition. Ouais. C'est pas de la maturité ça?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ouais, si, c'est de la maturité, mais c'est quelque chose que tu es capable de choisir ce qui te fait du bien pour toi. C'est-à-dire, je sais que tu ne veux pas qu'on parle de ton parcours professionnel, mais...
J'ai voulu rester quand même une sorte de vague mystère que les gens puissent raconter un peu ce qu'ils veulent. Peut-être actrice porno, peut-être...
mais en tout cas, quand que ce soit professionnellement ou avec un homme, quand tu te dis, en fait, ça ne me convient plus, ça ne me rend pas suffisamment heureuse, je ne me sens pas suffisamment valorisée, tu réussis à changer et à choisir autre chose pour toi. Et ça, c'est toujours un truc qui m'a impressionnée chez toi, parce que moi, je me suis souvent sentie un peu victime de mes passions, c'est-à-dire la passion pour mon métier ou la passion pour les hommes, et de ne pas réussir à être en contrôle, quoi. Et je me souviens souvent, tu me disais, quand je te racontais des castings, et à chaque fois, tu trouvais ça horrible et inhumain et maltraitant, et tu me disais, mais tu sais que tu n'as pas... Tu peux choisir autre chose. Et je me sentais pas en mesure de faire ce choix. Je me disais, j'arrive pas à dire non, à refuser, à... J'arrive pas à... Et toi, c'est quelque chose, voilà, que t'as beaucoup de...
Ouais, mais alors, je sais pas si c'est aussi que tu fais Tu vois, tu fais une échelle de valeur. Je pense que toi, tu as toujours trouvé énormément de plaisir. Donc, c'est aussi que t'as fait un choix, en fait, quelque part, à ce moment-là. Mais... La passion était plus importante, l'intensité était plus importante. Mais je pense que tu es aussi très déterminée et que tu fais des choix également. Tu ne te laisses pas libre cours aux choses t'arriver, tu vois.
Mais c'est vrai que j'ai choisi la passion et le plaisir avant peut-être le bonheur, l'équilibre, et que on est toutes les deux extrêmement artistiques. Mais toi, tu as bien fait le choix. Tu vois, tu es quelqu'un qui a énormément de goût, tu as énormément de personnalité. Je veux dire, tu maîtrises, tu as un talent pour les couleurs, tu as un talent pour la déco, c'est pas que les vêtements, je veux dire, tu as du goût pour tout, tu as évidemment une personnalité artistique, mais tu as toujours fait en sorte que, voilà, que dans les choix de vie, bah, que tout d'un coup, en fait, que ces passions, ces talents ne se transforment pas en choses qui pourraient te rendre trop malheureuse.
Ouais, bah, c'est compliqué de vouloir monétariser. Justement, un plaisir,
ouais.
ça souvent, ça te le pourrit un petit peu, quoi. Ou en tout cas, ça en retire du plaisir, parce que ça peut... Forcément, tu as de la contrainte qui vient avec tout boulot, tu le sais bien. Enfin, mmh. Une boss qui te disait ça, elle, bah, les infirmières, elles doivent torcher les culs. Enfin, tout taf, aussi beau qu'il soit, il y a une part de, voilà, de non glamour, de contrainte, de se forcer. Et du coup, il y a certains domaines dans lesquels je n'ai pas eu envie d'emmener certaines passions pour ces raisons-là. Mmh.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Qualité que j'apprécie plus chez mes amis, bah, je dirais la fidélité, la franchise. J'aime bien les gens où s'il y a quelque chose à dire, c'est dit. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Il y a une espèce de franchise. Je trouve que c'est assez important, quoi. Que j'ai aucun doute. Et en même temps, je pense les vrais amis avec qui je vois tout le temps, c'est aussi juste de la facilité, quoi, une espèce de proximité évidente, quoi.
Mmh. Ouais. Tu sais très bien t'entourer. C'est vrai que les amis que j'ai rencontrés, avec lesquels tu es venu me voir au théâtre récemment, j'ai été complètement sous le charme de leur douceur, leur intelligence, leur gentillesse.
Alors, c'était des actrices là, que j'avais réservées pour...
Non.
Non, non, non.
Non, non, elles étaient tout sauf actrices. Au contraire, elles étaient très...
Lilia et Léopoldine, ouais, c'est des gens.
Ah ouais, bah, j'ai pu moins discuter avec Léopoldine, mais je suis rentrée en métro avec Lilia. Et waouh, je me suis dit, ma sœur, elle est trop forte pour s'entourer, quoi. Pour s'entourer affectivement, elle choisit des bonnes personnes, quoi.
Ouais, mais je pense dans la relation amicale, il y a un peu comme la relation d'amoureuse, tu vois des gens où tu as envie qu'ils soient dans ta vie, quoi. Moi, il y a beaucoup d'amis à moi où j'ai un peu poursuivi, quoi, que des rencontres que tu fais où tu as absolument envie de revoir cette personne, qu'elle enrichisse ton quotidien, quoi. Et ces deux personnes-là, c'est le cas.
Ton principal défaut ?
Bah, il y a des défauts pour moi, il y a des défauts pour les autres. Vis-à-vis de moi, je doute trop. Et je pense qu'il peut gêner les autres, c'est que je suis susceptible.
Ouais, moi aussi, je suis susceptible comme toi. C'est vrai qu'on est susceptible. Qu'est-ce qu'on est susceptible? Et le doute, ah ouais, c'est marrant. C'est vrai que, tu vois, ça, c'est quelque chose que je ne t'aurais pas dit. J'aurais pas dit que tu doutais. Je m'en suis rendu compte ces derniers jours. Parce que tu as beaucoup douté par rapport à ta venue dans ce podcast. Tu voulais, puis plus, si on peut raconter la genèse. L'hiver dernier, j'ai fait un épisode du podcast avec Marina Rollman, dans lequel Marina, à un moment, je mentionne le fait que j'ai une petite sœur. Et Marina dit, ah bon, mais non, toi, tu n'as pas de petite sœur. Elle n'existe pas, ta petite sœur, t'en parles pas. Et j'étais genre, j'étais un peu gênée à ce moment-là, parce qu'en effet, pour moi, c'est toujours touchy, dans le sens où je m'en fous de faire des blagues sur les parents. Et en fait, eux, ça les flatte toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les parents sont tellement narcissiques que dès que je parle d'eux, ça les flatte, quel que soit ce que je dis sur eux. Alors que toi, tu as un tout petit peu plus envie de contrôler, de vérifier que ton intimité n'est pas bafouée. Et donc, c'est plus délicat. De faire des blagues sur toi, parce que même je peux faire des blagues sur des parents qui sont fausses, où je grossis, enfin, tu vois, je raconte que maman a fait des partous, c'est faux. Bon, en fait, alors que si je raconte un truc sur toi qui est faux, non, je sais que ça passera pas.
Donc, peut-être que je préférerais un truc complètement faux qu'un truc vrai de mon intimité qui sortirait, quoi. Je sais pas. Mais oui, c'est sûr que je suis beaucoup plus pudique sur ça.
Beaucoup plus regardante. Et donc finalement,
ouais, je pense que j'ai pas complètement fermé la possibilité d'atteindre un poste élu. J'ai pas envie que soit accessible des informations qui pourraient compromettre ma carrière politique.
Ah, c'est génial. C'est une bonne raison. C'est comme ça.
Ah non, mais c'est juste par pudeur. Et donc, je doute énormément. C'est marrant que tu dises la détermination, mais je pense que chaque choix que j'ai fait, il a jamais été complètement franc, quoi. À part, oui, c'est vrai, quand tu as des gens que tu trouves toxiques ou des situations dont tu veux sortir, la réponse est plutôt évidente. Et du coup, ça, j'avoue, je ne me pose pas trop de questions. Mais des petites décisions, mais d'ailleurs, c'est souvent sur les plus petites décisions.
Ouais.
Et mon copain est comme moi. Et du coup, ce n'est pas forcément aidant parce que pour aller choisir un restaurant, par contre, ça peut nous prendre beaucoup de temps, tu vois.
Ah ouais.
À choisir un film. Ah là là. On est psychotique, ouais. Donc, bon, après, ce n'est pas des choses hyper handicapantes dans la vie, mais c'est vrai que...
C'est ce que je disais, c'est que tu as longtemps hésité finalement avant de vouloir faire ou pas ce podcast. Tu voulais, puis tu voulais plus, puis tu voulais, puis tu voulais plus. Ouais. Même au moment où on enregistre, je ne sais même pas encore si je vais le sortir, puisque ça se trouve, tu vas me dire que tu veux ou que tu ne veux plus. Donc, je ne sais pas. Mais ouais, c'est en fait...
C'est un défaut pour les autres aussi, alors, douter.
Oui, j'avoue. Alors, résultat en face, pour être témoin de ça, ça peut être déstabilisant. En fait, moi, je dirais que ton principal trait de caractère, ce n'est pas la détermination, c'est la force. C'est la force. Tu as une force, et même tu as une force physique. C'est-à-dire que je sais que quand on se battait, quand on était petite...
Ouais, mais alors, c'est parce que je pense que tu avais une répartie bien plus aiguisée et pertinente que moi, plutôt. Et du coup, quand je ne savais pas quoi répondre, il fallait que je te frappe. C'était la solution de repli, mais... Donc, tu me disais un truc qui me vexait vachement et au lieu de te renvoyer quelque chose, j'avais rien qui me venait en tête ou j'avais peur que tu te vexes trop et du coup, je te balançais un truc à la gueule.
Et ensuite, moi, comme je ne pouvais pas compter sur mes pauvres bras faibles, je me disais vite trouver un accessoire pour lui balancer à la gueule. Il fallait toujours que je trouve un accessoire, genre un truc pour me défendre, pour me battre, parce que je n'avais pas suffisamment de muscles, quoi. Et à chaque fois que tu te jetais sur moi, je me disais, putain, mais... on a affaire à Wonder Woman, quoi. Je crois que j'étais toujours impressionnée par ta force physique, quoi.
Ouais, c'est comme si je me disais un peu dans ma tête, c'était moins grave de te frapper physiquement que de te dire quelque chose de méchant. Je sais pas.
Ah, certainement, tu devais en fait me protéger comme ça aussi. Tu m'as beaucoup beaucoup protégée.
Tourne le truc sur moi.
Tu m'as beaucoup consolée. Tu m'as beaucoup consolée, fait de câlins. T'as beaucoup été là pour me consoler, m'encourager. Dès petite, dès adolescente, dès que c'était dur les castings ou les histoires, tu m'as beaucoup, beaucoup...
Je me souviens d'une menace que tu me faisais, qui me terrifiait. C'était que tu me disais, c'est quoi, je ne te parlerai plus quand je serai connue. C'était
un truc... Non, tu rigoles, c'est pas vrai.
J'avais hyper peur de ça. C'était une des menaces. Si, si.
Bah alors, c'est Dieu qui m'a puni en ne devenant jamais connue.
Si, tu dis. Et maman est reconnue dans la rue. Donc,
non, mais bah attends, ça lui est arrivé une, deux fois dans sa vie. Hein. Mais non, moi, ce que je me souviens d'un truc un peu cruel que je te faisais, c'est quand je t'envoyais des pics, en effet, et que je voyais, je te disais, je te dis ça pour te préparer pour le collège parce qu'il faudra que tu aies de la répartie.
Ouais, c'était ton grand truc.
C'était, mais ça t'a un peu aidé quand même ou pas?
Je sais pas, j'ai pas connu l'alternative, donc c'est difficile de répondre, mais oui, sans doute. Oui, oui. Je pense que j'ai une bonne répartie maintenant, sans doute. Mais souvent, je ne le dis pas. Tu vois, souvent, je filtre parce que j'ai... Et maman est comme toi. Elle a une très, très bonne répartie et d'un seul coup, elle peut envoyer un pic. Tu as bien...
Bien senti.
Bien senti. Et ça a été un apprentissage pour moi de pas dire ce à quoi je pensais.
Ouais. Oui, parfois, moi, je ne me rends pas compte que aussi de la violence de mes propos, de mes mots. Alors que, bon, quand même, en fait, cela dit...
J'ai eu une expérience comme ça. Il y a une fille qui était très mignonne et tout, et qui dit, je ne comprends pas pourquoi je suis rouge, tu vois. Et du coup, j'ai d'autres potes qui me disent, ah, bah, peut-être que tu as chaud et tout. Et moi, je réponds juste parce que tu es moche. Et c'est le truc, c'est sorti comme ça. Et je pense que c'était un truc un peu à la répartie comme... ce qu'on faisait nous, et la fille n'avait pas du tout confiance en son physique, ça a été terrible, elle s'est limite mise à chialer devant tout le monde, et du coup je me suis dit, putain, tourne ta langue deux fois, quoi. Tu peux pas juste, aux gens que tu connais pas et qui connaissent pas ton humour, balancer des trucs trop cruels, quoi.
Tu sais que j'ai revu une amie comédienne récemment que tu connaissais, qui était avec toi, qui est devenue mannequin, et je sais pas pourquoi, je sais pas si elle était déjà venue à la maison, ou alors elle connaissait une amie à vous, qui était venue chez nous et qui se souvenait, mon maman ne va pas être contente en entendant ça, à quel point maman était sévère.
Ah oui.
Ouais. Et que ça l'avait étonnée, parce que je ne sais pas, il fallait être poli, faire les devoirs, travailler, faire des trucs. Enfin, c'était quand même, ça rigolait pas, quoi.
Ah non, maman était très, très, très stricte, ouais.
Ah ouais, très stricte, ça c'est sûr.
Ah ouais, et je me souviens qu'elle avait dit à une copine à moi, qui était habillée un peu grunge, quoi. C'était la mode crop top, jean déchiré et tout. Elle avait dit, mais t'es habillée comme un clown. Ouais, elle a dit ça à une fille de 13 ans, mal dans sa peau. La fille, elle a plus voulu revenir avec moi à la maison, quoi.
Ouais. En même temps, mamie, elle était mamie. Parfois, elle avait des bonnes petites. Elle n'y allait pas par quatre chemins. Hein.
Ouais.
Pas avec nous, mais un don, un talent que tu aimerais avoir.
J'aimerais bien jouer d'un instrument. J'aimerais bien chanter aussi. Là, je viens de voir West Side Story. J'aimerais bien savoir bien chanter, quoi. Parce que je rechantais les chansons après et vraiment, ça rendait pas pareil.
Tonight, tonight, in Hallelujah.
Alors, je viens de dire aux auditeurs que ce n'est pas Emma, mais Rosa qui est partie en chanson. Bah, si seulement je pouvais posséder ton... mais tu te souviens d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Donc j'étais en terminale, donc pas forcément flatteur pour toi parce que tu devais avoir 20 ans quand même. Et on regardait Glee. Mm-hmm. Et tu m'as dit, un petit déj comme ça, est-ce que tu penses que Léa et Michel, elles chantent mieux que moi ?
Merde, putain.
Et je t'ai dit, bah ouais.
Oui.
Réponse évidente. Sauf que c'était un moment où tu prenais des cours de chant lyrique.
Ah, merde.
Et tu n'étais pas en phase avec L'Oréal. Ouais. Et tu m'as fait la gueule pendant une semaine.
Ah, je me fatigue.
Ouais.
Écoute.
Mais bon. Maintenant, si tu es OK avec le fait de ne pas chanter comme Léa Michel, c'est qu'il y a du
problème. Comment ça? Maria, Maria, Maria.
Toujours Rosa, hein, je précise. Je ne me permettrai pas de vous imposer.
Ouais. Riff, il n'est pas trop beau.
Si, il capte vachement l'attention. Mais d'ailleurs, tu te demandes pourquoi c'est pas lui le Roméo, quoi.
Il est beaucoup plus stylé que Roméo. Roméo, il est, tu veux dire Tony. Tony, il a une tronche. Enfin, il est plutôt pas mal. C'est Elson.
Ouais. D'ailleurs, je préfère le casting, je dois avouer, du Spielberg que de celui des années 50, quoi.
Ouais. Bon, Natalie Wood, quand même, elle envoyait du lourd. Hein. C'est ça. C'est, ouais.
C'est vrai.
La meuf qui fait Maria, je trouve qu'elle a une voix extraordinaire, mais je trouve qu'elle est trop prognate. C'est très méchant de dire ça. Mais tu vois, je trouve que tu as ou pas son menton est très en avant.
Oula, ouais, non, j'ai pas été aussi. Non, je la trouve. Moi, c'est juste, je trouve qu'elle est un peu jeune.
Ouais.
Et sinon, je l'ai trouvée très belle et avec une voix incroyable, quoi.
Elle
jouait très bien. Et c'est
elle a une voix d'ange.
Arrive à trouver. Elle a les yeux qui pétillent. Non,
elle a une voix d'ange, mais attends, je chante mieux qu'elle.
Tu chantes bien mieux qu'elle. Moi, j'ai appris mes leçons. De toute façon, personne ne chante mieux que toi, donc.
Ok, on est d'accord. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il est beau, Riff. Et une petite voix comme ça, et surtout il danse. Et lui, c'est le meilleur danseur. Hein. C'est le meilleur danseur du film.
Ouais.
C'est le plus long. Hein. Il arrive à doubler son corps en dansant. C'est extraordinaire.
Mmh. Ah ouais, non, c'était vraiment du plaisir, quoi.
Ouais. Comment aimerais-tu mourir?
Dans l'ignorance que je vais mourir.
Ton état d'esprit actuel?
Euphorique. non, mais bien, heureuse.
Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence?
J'imagine des fautes de timidité. Je suis hyper touchée par les gens timides. Après, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui font des fautes que je trouve où je suis hyper indulgente. Tu vois, les gens que j'aime, je pense que j'ai envie de... Ouais. Et il y a des gens auxquels je ne laisserai rien passer. Donc, voilà.
Enfin, est-ce que tu as une devise favorite?
J'aimerais bien. Je cherche un peu, ouais. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête. Et en plus, je savais que tu faisais ce questionnaire, donc clairement, j'aurais pu préparer.
Attends, il n'y a pas une chanson qu'on faisait. Il y avait une chanson qu'on. C'est pas une chanson qu'on fredonnait sans cesse. Ça te dit rien?
Encore une fois, pas très envie de chanter dans ton podcast.
C'était pas un... Justement, c'était pas la chanson du singe dans.
Ouais, le Roi Lion, ouais, je la connais ouais. Encore par cœur, j'avoue. Mais.
Lance-toi, c'est parti.
Non, non. C'est quand même. Voilà, encore une fois, je précise, c'est pas à moi. ah oui, ce serait ça ma maxime, du coup. Ce serait le chant du singe dans le Roi Lion. Ouais.
Non, je sais pas pourquoi j'ai shifté vers un truc qu'on bredouille. Une chanson qu'on fredonnait ensemble toujours.
Non, mais quelque chose, genre ne pas oublier de s'arrêter pour sentir l'odeur des fleurs, quoi. Quelque chose de...
Ou l'odeur du cul.
Oui, ça, je préfère ne pas m'arrêter pour le sentir. Mais...
Quel rapport t'entretiens à la sexualité, d'ailleurs ? Est-ce que, genre, c'est un truc sur lequel t'es pudique ? Ou est-ce que c'est un truc sur lequel, t'aimes en parler avec tes amis ? Ou au contraire, tu vois ?
Alors ça, c'est quelque chose qui surprend pas mal mes potes. C'est que je suis très blague de cul.
Ouais.
J'ai aucunement envie de connaître leur sexualité. Enfin, je suis très gênée.
Ouais.
Si j'ai une copine qui me dit « Ah, moi, j'adore la sodomie », je vais être là « Oh, non, dis pas plus. » C'est vraiment... j'ai pas envie de visualiser les gens que je connais dans un contexte trop intime, quoi. Donc, non, je suis assez pudique. Je suis très pudique. Et j'adore les blagues de cul, donc c'est très paradoxal. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui me fait plus rire qu'une banane avec deux clémentines. Quoi. Mais voilà, ça s'arrête
là. Est-ce que tu as commencé à tester le sextoy que je t'ai offert pour Noël ?
Non. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est un très gentil cadeau, mais je n'ai pas encore eu l'occasion.
Mais c'est vrai que ça doit être, quand les gens doivent te dire, attends, les mecs que je veux ken, ça doit être bizarre. Genre, c'est ta sœur qui fait ça. T'as des trucs, t'as des remarques un petit peu bizarres par rapport à ça ?
On m'a demandé qu'est-ce que ça me faisait le moment du spectacle où tu disais que t'avais ma mère entre tes jambes.
Ah ouais.
Et écoute, j'ai dit pas de soucis, quoi.
Bon, bah, tant mieux si ça te met pas trop mal à l'aise. Oui, le moment du spectacle où je fais une blague sur maman qui lèche ma chatte.
Ouais.
Ça t'a pas trop dérangé ?
Bon, c'est pas mon moment préféré. Encore une fois, ça va avec le truc de visualisation. C'est que, peut-être que j'ai un esprit très imagé et c'est pour ça qu'en fait, parler de cul pour les gens, ça veut pas dire la même chose que pour moi. Mais c'est plus ça ma difficulté quotidienne. C'est que tu me dis une image, je l'ai, quoi.
Bon, en tout cas, t'es trop belle. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi, mon petit boubou.
Ouais. Je fais bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est un podcast donc on ne verra pas, mais voilà, pour les auditeurs, je suis vraiment très très belle.
Ouais, t'es très très belle. T'as des résolutions pour 2022 ?
J'ai diminué ma consommation d'héroïne. Non, je ne sais pas. J'ai plein de projets et très peu de temps pour les faire, mais j'aimerais bien jouer du piano. Voilà, peut-être jouer du piano. Apprendre une langue. Et j'ai Duolingo en italien depuis très longtemps. J'aimerais bien aller au bout de cette aventure. Voilà. Pour commencer. Et toi, c'est quoi tes résolutions pour le nouvel an ?
Moi, j'en ai plein. Déjà, j'ai envie de essayer peut-être de faire un peu de sport, de moins manger, peut-être de me remettre un peu à la méditation. J'ai envie d'essayer d'apprendre à être... à un peu mieux calculer, à moins vite donner accès, tu vois, à tout. Tu vois, à savoir trier, choisir, et à mieux gérer, ma communication et notamment les conflits. Il faudrait que je lise des bouquins là-dessus, mais je me trouve beaucoup trop... j'ai l'impression que parfois, je me mets dans des rapports qui sont des rapports compliqués et... de domination, de soumission, de je veux ci, je veux ça, je veux pas comme ça. Et voilà, ça m'apprend beaucoup à savoir, tu vois, être cool, dire non, mettre de la distance. J'ai envie de mettre plus de... Ouais, je sais pas, de savoir un peu mieux me protéger, d'apprendre à mieux communiquer. Et ça serait chouette de réussir à savoir ça. Et j'espère aussi avoir résoudre mes problèmes de santé.
parce que c'est, j'ai quand même toujours des soucis d'oreille interne, j'ai un abcès à l'œil, je suis allée chez l'ophtalmo, donc j'ai des problèmes de dos, des problèmes de genoux, j'ai un problème de pubalgie quand même, hein, qui date depuis mars 2020, ma tendinite du pubis, ça fait hyper mal, donc j'en fais des blagues, mais en fait, t'as beau faire des blagues, t'as quand même super mal, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu sais, je faisais la liste des problèmes que j'ai physiquement, puis c'est un peu en mode, c'est normal, tu vois. Puis j'ai une pote avec qui je suis là à New York qui m'a fait « Ah non, c'est chaud, ouais. » Donc, donc depuis, je suis en mode « Ah ouais, bon, bah, peut-être qu'il faut que j'apprenne à gérer mon stress, mon anxiété. » Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup qui est lié à la sortie du livre.
Ouais, bien sûr.
Mais en tout cas, j'étais trop heureuse que tu veuilles partager ce moment-là avec moi et c'est sûr que pour moi, je t'aime. Tu sais, c'est marrant, c'est vraiment... l'amour que j'ai pour toi est totalement animal. C'est-à-dire que c'est... si tu te dis que malgré toutes les qualités que tu as, c'est un amour qui est sanguin, quoi. C'est un amour qui est indestructible. C'est-à-dire que vraiment, si demain tu tues quelqu'un, je t'aiderai à l'enterrer dans ton jardin.
Ah bah tu fais bien de me le dire, parce que... Je pose souvent cette question aux gens et j'ai des potes qui m'ont dit non, quoi. Non, je te balance.
Ah ouais ?
Ouais, ou s'il te plaît, me le dis pas, quoi. Ça me mettrait dans une situation de merde. Ouais.
Ah non, moi, je serais toujours avec toi. Qu'est-ce que... Bon, attends, faudrait à moins d'un crime, comment dire, qui dépasse l'entendement de l'humain, tu vois, un truc...
Bah, vraiment... j'ai buté un gosse parce qu'il m'énervait. Il avait rien fait, juste il était là dans le parc. Il me saignait un peu de travers et je l'ai découpé en petits morceaux.
Ouais.
Et je veux te demander de l'aide pour que tu caches avec moi les petits morceaux de l'enfant.
Bah, je vais te demander de t'asseoir calmement et je vais appeler les secours psychiatriques. Mais parce que je pense que si tu as fait ça, c'est que
tu as des limites dans ton amour quand même.
Mais non, c'est pas ça, c'est que tu as besoin d'être soigné. Moi, je t'aide pour cacher un crime.
Si mais quel crime n'a pas, tu vois, c'est difficile de dire où est-ce que la psychiatrie.
Non, il y a plein de crimes.
Des crimes rationnels.
Bah, bien sûr. Si jamais, déjà, il y a des crimes accidentels et même les. Et t'as des crimes, par exemple, si en fait tu me dis en fait mon copain, tu sais, il a l'air super mignon, super gentil, je fais ouais. Et là, tu me dis bah en fait ça fait 10 ans qu'il me bat. Je t'ai jamais dit, mais en fait j'ai. Et en fait un jour j'en pouvais plus et en fait je l'ai buté. Bah je te croirais, je te défendrais, tu vois.
Ok.
C'est pas un crime complètement fou. Enfin, après, c'est encore un autre. C'est toi
si
qui.
Fais... Il me saoule, il suffit que je te dise qui me battait.
C'est ça.
Ok.
Je t'aime trop.
Non, mais same, same. Hein. Je t'aiderai à rentrer encore.
Hein. Ouais.
En plus, je suis très passionnée polar, donc je pense que j'aurai 2-3 stratégies.
Ok. Bah, je te laisse, je te fais de gros bisous.
Toi aussi.
Bisous, baby.
Merci pour cette invitation.
Je t'aime.
Moi aussi.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.